Rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec Anne Verdaguer. Bonjour Anne.
Bonjour Hugo et bonjour à tous. On va démarrer aujourd'hui avec cette vive réponse du patron du New York Times à Donald Trump qui juge le discours du président américain sur les fake news dangereux et nuisibles. Les deux hommes se sont rencontrés le 20 juillet dernier. C'est Donald Trump qui a révélé cet entretien alors qu'il devait rester confidentiel. Le patron du New York Times parle d'une rhétorique anti-presse extrêmement troublante de la part du dirigeant américain. Haïti continue de panser ses plaies presque un mois après de violentes émeutes. Cette colère populaire suite à une tentative de hausse des prix du carburant soulève des questions profondes sur la corruption et l'absence d'aide sociale dans le pays. Amélie Baron a rencontré le chanteur Bello qui s'est inspiré de cette colère pour écrire son dernier morceau. Le Venezuela, un an après la mise en place d'une nouvelle assemblée constituante, on fera le point avec Marie Normand. Bienvenue à tous. Mais tout de suite la revue de presse d'Amérique. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, cette nouvelle polémique autour d'un tweet de Donald Trump ce dimanche. Cette fois-ci, le président américain s'est lancé dans une longue tirade sur son sujet favori, les fake news. Il révèle avoir rencontré le patron du New York Times et il affirme que la presse délivre constamment des informations biaisées depuis le début de sa présidence. On en parle dans un instant avec vous car cela fait énormément réagir aujourd'hui dans la presse américaine. Mais d'abord, quelques précisions avec Marie Bourreau à New York.
La rencontre qui a eu lieu le 20 juillet dernier n'aurait jamais dû être rendu public, mais c'est le président américain lui-même qui dénonce pourtant régulièrement les fuites dont son administration est victime, qui a publié l'information sur son compte Twitter, accusant une nouvelle fois la presse d'être biaisée. Dans un communiqué au ton cinglant, le patron du New York Times lui répond, il assure avoir accepté le principe de cette rencontre avec le président pour l'avertir du danger de sa rhétorique anti-presse. Non seulement le terme de fake news est faux et nuisible, écrit mais il affirme avoir surtout dénoncé l'assimilation des journalistes à des ennemis du peuple, des propos dangereux aux États-Unis, mais aussi à l'étranger où certains régimes les utilisent pour justifier la répression des journalistes. Mais Donald Trump n'a semble-t-il pas saisi la portée de ce message. Il s'est emparé à nouveau de Twitter pour attaquer les médias qui mettent des vies en danger et pas seulement celles des journalistes, en révélant des délibérations internes de son administration, écrit-il, et en publiant des articles à 90% mensonger sur ses réalisations à la tête du pays. Marie Bourreau, New York, RFI.
Alors Harim Lipold, la mise en garde du patron du New York Times contre Donald Trump, on le disait, est largement commentée par la presse lundi.
Oui, exactement. Une mise en garde, Anne, qui visiblement n'a pas été très efficace. C'est ce qu'écrit en tout cas le site d'information Politico. Car après la rencontre entre Donald Trump et Arthur Greg Salzberg, le patron du New York Times, eh bien le président américain, lors d'un discours dans le Missouri la semaine dernière, a encore une fois pesté contre les médias, sans parler du reporter de la chaîne CNN, qui a été interdit de couvrir la conférence de presse avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. D'après Politico, Donald Trump ne montre aucune volonté d'abandonner ses diatribes contre la presse, qu'il a qualifié d'ennemi du peuple samedi dernier, dans un tweet. En tout cas, comme le remarque la chaîne Fox News, plutôt proche de Donald Trump, en qualifiant le New York Times de failings, qu'on peut traduire par échec, eh bien, le président oublie quand même une chose, que sur le plan financier, le journal, donc le New York Times, se porte plutôt bien. Son chiffre d'affaires au premier trimestre a augmenté de plus de 3% par rapport à la même période l'année dernière.
Alors, autre sujet à la une de la presse américaine, Harim, ce sont les violents incendies en Californie.
Oui, quelques 12 000 pompiers sont mobilisés. Ils essaient de lutter contre les 17 feux qui se sont propagés en Californie. Les feux qui ont été mortels pour 8 personnes, c'est le titre du Los Angeles Times. Leonard Motti, superviseur du comté de Shasta, où sévit Carr, l'incendie le plus important, a déclaré dans le journal « J'ai habité ici toute ma vie et je n'ai jamais vu un feu qui sème une telle destruction ». Une habitante raconte dans le San Francisco Chronicle qu'elle n'a pas attendu l'ordre d'évacuation des autorités pour demander par téléphone à sa fille de 16 ans, qui était seule à la maison, de quitter les lieux le plus rapidement possible. Quand elles sont revenues, leur mère et la fille, eh bien leur maison n'était plus qu'une ruine. Tout est parti en fumée, explique Nolan, c'était la mère, au reporter du San Francisco Chronicle, à l'exception de quelques jouets et d'une tour Eiffel en miniature.
Les incendies de forêt, un sujet que l'on retrouve aussi dans la presse canadienne.
Les incendies constituent une menace croissante, titre le journal canadien Le Devoir. Après la Grèce et la Suède, la Californie et l'Ontario brûlent à leur tour, écrit le quotidien. Les incendies de forêt dans les pays nordiques sont de plus en plus fréquents en raison du changement climatique, d'après des experts interrogés par le journal. Ils estiment que le pire est à venir et parlent d'un problème international car de plus en plus de pays seront touchés à l'avenir. C'était une année extrême, explique par exemple un chercheur. Au Canada, on a vu 4% du territoire de l'Alaska et 6% du territoire du Yukon brûler dans des zones qui ne sont habituellement pas propices à ce type d'incendie.
Direction le Venezuela à présent, on y reviendra avec Marie Normand, mais où va le Venezuela? C'est la question que pose le Miami Herald aujourd'hui.
Oui, le journal de Floride évoque plusieurs scénarios afin d'éviter le crash économique dans un pays où l'inflation atteindra, selon le FMI, les 1 million de % cette année. Le gouvernement pourrait opter pour la dollarisation de la monnaie, comme l'a fait le Zimbabwe en 2008. Un tel scénario pourrait permettre au président Nicolas Maduro de rester au pouvoir quelques années encore. Autre scénario, celui que le Miami Herald qualifie de voie cubaine. Nicolas Maduro tablerait dans ce cas sur l'émigration de tout opposant pour mieux gouverner, je cite, une masse de Vénézuéliens dociles qui n'ont d'autre choix que de rester et qui dépendent des aides sociales publiques.
Les Nicaraguayens aussi sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays en proie à des violences depuis 3 mois. La plupart d'entre eux trouvent refuge au Costa Rica voisin.
Et c'est à la une du journal La Nation. Environ 3000 Nicaraguayens arrivent toutes les semaines au Costa Rica en empruntant une route surnommée la Trocha. Parmi eux, Mario Osejo, 65 ans, opposant au gouvernement Ortega, interviewé par le journal La Nation. Pour ceux qui ne veulent pas tomber entre les griffes du régime, eh bien, il n'y a qu'une seule option. Partir, explique-t-il au journal.
On termine à Rime avec Haïti et un appel à la grève ce lundi.
Plusieurs organisations syndicales et populaires se mobilisent pour demander la démission du président Jovenel Moïse. C'est à l'une du site d'information Alta Presse. Autre revendication des organisations comme le mouvement 22 janvier ou le collectif des organisations estudiantines progressistes haïtiennes, la libération d'une 60aine de personnes qui ont été arrêtés après les émeutes des 6, 7 et 8 juillet derniers dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.
Et la vague de violence en Haïti, on en reparle justement. Les causes profondes de ce ras-le-bol de la population la plus pauvre commencent aujourd'hui à être pleinement débattues. La corruption et l'absence d'aide sociale sont au cœur de cette colère populaire. C'est tout un système inégalitaire qui est actuellement remis en question et qui a inspiré une chanson à Bello, chanteur et guitariste haïtien. Son titre « Boussole », comme il l'explique au micro d'Amélie Baron, il l'a écrit en immédiate réaction aux événements et dans ses paroles, il compare Haïti à un bateau qui doit donc en urgence changer de direction pour ne pas sombrer. On l'écoute.
C'est arrivé comme une surprise. Ben, seulement ceux qui savent lire entre les lignes pouvaient voir que c'est évident que ça allait arriver. Ce qui s'est passé les 6, 7, 8 juillet, c'est le résultat d'un système qui ne fonctionne pas. Et donc, moi, j'estime que Haïti a besoin de changer de direction et donc je propose Boussole pour changer de mentalité, pour changer de façon de penser, de façon d'agir, et pour divorcer avec un système qui n'a pas fonctionné depuis plus de 200 ans. Et donc, Jaël Auguste, qui est ce jeune compositeur, il m'a proposé l'instrumental pour cette chanson. J'étais chez moi, c'était le 9 juillet justement, et les paroles sont venues. Et c'est la première fois de toute ma vie que j'ai composé en moins de 24 heures. J'ai composé chansons, paroles, arrangements et tout. Et donc voilà.
C'est vraiment donc en réaction, parce que il y a eu beaucoup de destruction, mais il y avait la légitimité de la colère populaire face, comme tu le chantes, aux clans, aux petites affaires et à la corruption. C'est ça que tu dénonces.
Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je pense que ce qui s'est passé a prouvé que le peuple a enfin compris, en fait. C'est pas que le peuple ne comprenait pas, mais c'est que, bon, voilà, comme ici, on croit dans bon Dieu bon, tu vois, et le bon Dieu va changer les choses, etc. Ils ont peut-être compris que, voilà, et c'est pas le bon Dieu qui va faire ça. et que c'est nous. Et moi, je suis pas en train d'encourager la violence. Ça n'a jamais été moi. Voilà pourquoi dans cette chanson, je ne fais pas que dire voilà ce qui ne fonctionne pas, parce que finalement le peuple a compris que ça ne fonctionne pas. On a un système qui ne fonctionne pas. Mais bon, ici, on a toujours tendance à dire ce qu'on ne veut pas, mais sans essayer de dire qu'est-ce qu'on veut. Et donc Boussole, c'est un peu ça aussi. C'est pour dire voilà, moi je pense que l'unité, le dialogue, comme on dit en anglais, un reset, c'est-à-dire un redémarrage en fait, un changement radical dans tout le système est nécessaire et sinon obligatoire pour Haïti en ce moment.
Et est-ce que même en tant qu'artiste, dénoncer avec les petits clans, la corruption, le pillage des ressources publiques, c'est pas dangereux?
Ben, qu'est-ce qui n'est pas dangereux ici? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux ici? En tout cas, moi j'ai toujours été très, bon, je vais pas dire prudent dans ma musique parce que je suis un artiste engagé, mais j'ai toujours fait attention pour ne pas pointer du doigt quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre ou dénoncer quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre. Haïti a toujours été ma priorité en fait. Tant que le changement qu'on souhaite, c'est on veut plus de ce groupe, on veut plus de cette personne, c'est maintenant à notre tour à nous de profiter d'un système qui fonctionne mal, on n'aura pas un changement réel. C'est le système qu'il faut revoir. C'est le système, parce que c'est le système qui favorise l'inégalité, c'est le système qui favorise la corruption, c'est le système qui favorise tout ce que les gens ont été dénoncés pendant ce week-end. Donc, c'est pas avec les gens qu'il faut voir ça, c'est avec le système. C'est ça ma façon de penser.
Voilà, le chanteur haïtien Bello au micro d'Amélie Baron. Et on va donc au Venezuela. C'était il y a tout juste un an, l'élection d'une assemblée nationale constituante qui s'est progressivement imposée comme l'institution la plus importante du Venezuela. Ses membres se réunissent en ce moment, place Bolivar, à Caracas, pour célébrer cet anniversaire. Bonjour Marie Normand.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette constituante?
Alors déjà, c'est une institution qui est prévue par la constitution vénézuélienne de 99. C'est une assemblée dont la tâche, à la base, est de rédiger, comme son nom l'indique, une nouvelle constitution. Elle doit normalement être convoquée par le peuple. Bon, là, c'est le président Nicolas Maduro qui l'a convoquée, ce que certains considèrent d'ailleurs comme une usurpation. Les chavistes, les membres de son parti, estiment au contraire que cela est tout à fait constitutionnel.
Alors, pourquoi mettre en place une telle constituante?
Bien, en fait, le Venezuela était bloqué. Fin 2016, l'opposition avait remporté les trois quarts des sièges à l'Assemblée nationale. Mais avec, donc, d'une part, l'exécutif et le judiciaire représentant les intérêts des chavistes, et de l'autre, ce pouvoir législatif aux mains de l'opposition, eh bien, difficile d'avancer. Les tensions se sont accrues jusqu'à ces grandes manifestations anti-gouvernementales, on s'en souvient, d'avril à juillet l'année dernière, qui ont mené à un référendum révocatoire contre le président Maduro, référendum qui n'a pas été suivi des faits.
Le président Nicolas Maduro qui a donc proposé cette constituante pour sortir de la crise en quelque sorte.
Oui, sauf que l'opposition a refusé d'y participer. Résultat, tous ceux qui ont été élus, les 545 membres de cette assemblée, eh bien, appartiennent tous au camp chaviste, ce qui amène de nombreux pays à ne pas reconnaître cette ANC, à contester sa légitimité. Et les partisans du gouvernement estiment au contraire que c'est l'expression parfaite de la démocratie.
Et alors Marie, qu'a fait cette assemblée nationale constituante depuis un an?
Alors on sait que les membres se réunissent, il y a différentes commissions qui travaillent sur différents points de cette future loi fondamentale, mais pour l'instant pas l'ombre d'une nouvelle constitution. Ça ne fait qu'un an, hein, ceci dit, et la constituante s'est donnée 2 ans pour préparer ce texte. Interrogé par le journal Panorama aujourd'hui, l'un de ses membres avance qu'un projet devrait être présenté avant la fin de l'année.
En revanche, l'ANC s'est emparée des pouvoirs de l'Assemblée nationale qui était dominée, je le rappelle, par l'opposition.
Oui, Assemblée qui continue de fonctionner actuellement, Anne, mais qui n'a plus aucun pouvoir. Alors c'est devenu l'une des tâches les plus immédiates de l'ANC, approuver les lois présentées par l'exécutif, par Nicolas Maduro. Donc, par exemple, dernièrement, le président a demandé à l'Assemblée de donner plus de flexibilité au contrôle des changes. C'est aussi l'ANC qui a validé la loi sur la crypto-monnaie, le pétro, cette monnaie adossée aux réserves pétrolières du pays. Et puis, ce qu'on remarque surtout, c'est le pouvoir de cette ANC. Elle fait figure d'organe de décision supraconstitutionnel et ses pouvoirs sont quasi illimité. Aujourd'hui, même le président Nicolas Maduro assure, on l'entend, qu'il se soumet à cette constituante. C'est devant elle qu'il a prêté serment, d'ailleurs, après sa réélection au mois de mai.
Et à ce jour, l'ANC a surtout légiféré pour faire taire ces voix dissidentes, Marie.
Oui, c'était d'ailleurs son premier geste. À peine mise en place, l'ANC a destitué la procureure générale, Luisa Ortega Díaz, l'une des voix discordantes. Donc, pour les membres de cette assemblée, le plus grand accomplissement finalement depuis un an, c'est d'avoir, je cite, mis fin à la vague de violence insurrectionnelle promue par des secteurs radicaux. En gros, elle aurait permis de rétablir l'ordre. Et certains députés que j'avais rencontrés au mois d'octobre dernier aller plus loin. Pour eux, il fallait punir ceux qui avaient fait du mal au Venezuela, sous-entendu punir les membres de l'opposition qui avaient appelé à ces manifestations. Une loi a été mise en place par l'ANC, une loi pour enquêter sur les crimes de haine. Et Diosdado Cabello, le numéro 2 du parti au pouvoir qui a pris la tête de cette constituante dernièrement, a annoncé une autre commission qui sera chargée d'enquêter cette fois sur ceux qui appellent à une intervention militaire extérieure. Diosdado Cabello, qui est considéré comme un représentant de l'aile dure du chavisme, pour certains observateurs, cela démontre l'orientation autoritaire prise par l'ANC. Beaucoup de grandes voix de l'opposition, Anne, je vous le rappelle, ont depuis l'année dernière choisi l'exil et font entendre désormais leur voix de l'étranger.
Merci beaucoup Marie Normand pour ces précisions sur l'Assemblée nationale constituante qui a pris effet il y a un an au Venezuela.
Journal de l'Outre-mer.
L'actualité ultramarine maintenant avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui en Guadeloupe, la politique de réintroduction du lamantin va être révisée.
Oui, le parc national doit revoir sa copie s'il veut continuer à bénéficier du soutien financier de l'Europe. Un corps comité d'orientation régionale a donc été créé. Il s'est réuni pour la première fois samedi au Lamantin, là où l'on tente de réintroduire le sympathique mammifère marin dans les eaux guadeloupéennes. Piggy Robert.
Les membres du corps, le comité d'orientation régionale, suivent à la lettre les recommandations du ministère. Le programme a été révisé. Il passe d'une réintroduction de lamantins qui ont grandi dans des eaux et qui étaient destinés à la reproduction, à l'introduction de lamantins qui vivent déjà en liberté et qui doivent être relâchés ici. Une toute autre approche donc pour éviter une nouvelle crise après la mort de Junior en octobre 2016 et obtenir les financements européens. Philippe Gustin, le préfet de la région Guadeloupe.
Notre objectif, et c'est pour ça que nous avons défini aussi tout ce programme et cette feuille de route bien précise, c'est de restaurer la confiance. C'est-à-dire que de l'action que nous allons mener, on puisse convaincre l'Union européenne de poursuivre ces financements qui sont incontournables pour l'avenir du projet.
Des financements incontournables car ce programme ne peut être mené sans le concours de l'Europe qui est prête à verser 3,5 millions d'euros au titre du programme LIFE. Les lamantins proviendront probablement du Mexique. Quant à Kyle, le lamantin survivant, il va mieux, mais il ne devrait pas rester dans son bassin à Blachon. Plusieurs pistes sont encore à l'étude. La date limite pour tout finaliser a été fixée au 15 octobre, sachant que toutes les décisions prises par le corps doivent encore être validées par le conseil d'administration du parc national de la Guadeloupe.
Direction la Guyane maintenant avec la pose vendredi de la première pierre d'une future centrale biomasse à cacao, une usine de production d'électricité alimentée au bois exclusivement guyanais. Reportage Ocelia Cartes.
À quelques mètres d'un terrain encore désert, la scierie de cacao, elle sera le premier fournisseur de résidus de bois.
Ces déchets sont broyés par l'exploitation forestière et la scierie. Nous, on les convoie avec un espèce de grand tapis roulant qui fait 300 mètres, qui remonte jusqu'à la centrale.
Mathieu Poupard, chef d'exploitation de la centrale biomasse.
On les stocke dans des silos, on les emmène en chaudière. On a la plateforme supérieure sur laquelle sera installée la centrale biomasse. Donc avec une chaudière, une turbine vapeur qui fait tourner un alternateur et qui crée de l'électricité qui est injectée sur le réseau EDF.
Le point final sera donc le câble tiré par EDF vers la centrale qui permettra d'alimenter sur le réseau 4,5% de la consommation globale, ce qui représentera 16 000 foyers.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand et à demain. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alice Ménard à la réalisation. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr et l'onglet Journal d'Haïti et des Amériques. Et en attendant, très très bonne journée à tous.